La foire aux vanités, roman sans héros, de William Makepeace Thackeray. Tome 1. 1848. Traduction Georges Giffray. Chapitre 1er. Cheswick Mall. Notre siècle marchait sur ses 15 ans. Par une brillante matinée de juin, une large voiture bourgeoise se dirigeait, avec une vitesse de 4000 à l'heure, vers la lourde grille du pensionnat de jeunes demoiselles tenue par Miss Pinkerton à Cheswick Mall. La voiture était attelée de deux chevaux bien nourris, aux harnais étincelants, et conduite par un cocher non moins bien nourri, et ombragé d'un chapeau à trois cornes et d'une perruque. Sur le siège, à côté du cocher, se trouvait un domestique noir qui déplia ses jambes recourbées au moment où la voiture s'arrêtait devant la porte de Miss Pinkerton. Au bruit de la cloche qu'il agita, une douzaine au moins de jeunes têtes apparurent aux étroites croisées de ce vieux et majestueux manoir bâti en briques. Un observateur attentif eût pu même reconnaître le nez rouge et effilé de cette bonne Miss Pinkerton se dressant au-dessus d'une touffe de géranium qui ornait la fenêtre du salon. « C'est la voiture de M. Sedley, ma sœur, » dit Miss Jemima. « C'est Sambo, le domestique noir, qui vient de sonner, et le cocher a un habit rouge tout neuf. » « Avez-vous terminé tous les préparatifs nécessaires pour le départ de Miss Sedley, Miss Jemima ?» demanda Miss Pinkerton. C'était une bien majestueuse personne que Miss Pinkerton, la Sémiramis d'Hammersmith, l'amie du docteur Johnson et la correspondante de Mrs. Chapone. « Ces demoiselles sont à emballer leur chiffon depuis 4 heures du matin, ma sœur, » répliqua Miss Jemima, « et nous leur avons préparé une brassée de fleurs. » « Dites un bouquet, ma sœur Jemima, cela est de meilleur ton. »« Eh bien, soit un bouquet qui était déjà bien gros comme une botte de foin. »« J'ai mis de plus belle 2 bouteilles d'eau de giroflée pour Miss Sedley et la recette pour en faire le tout dans la malle d'Amélia. »« Et je pense, Miss Jemima, que vous avez copié la note de Miss Sedley. »« La voici, n'est-ce pas ? C'est très bien. 93 livres, 4 shillings. »« Soyez assez bonne pour mettre l'adresse à... » « Mr. John Sedley, et cachetez ce billet que j'écris à sa femme. » Aux yeux de Miss Jemima, une lettre autographe de sa sœur était un objet de grande vénération. Elle n'en eût pas témoigné davantage pour une lettre écrite de la main d'un souverain. Il était de notoriété publique que Miss Pinkerton n'écrivait aux parents des élèves que lorsque les pensionnaires quittaient la maison ou se mariaient. Elle avait fait une seule exception, lorsque cette pauvre Miss Birch était morte de la fièvre scarlatine. Miss Jemima était persuadée que si quelque chose avait pu consoler Mrs. Birch de la perte de sa fille, c'était la pieuse et pathétique composition où Miss Pinkerton lui annonçait cette triste nouvelle. Dans la circonstance qui nous occupe, voici comme était conçue l'épître de Miss Pinkerton. La Mall, Cheswick, 16 juin 18. Après 6 années de séjour à la Mall, j'ai l'honneur et la satisfaction de rendre Miss Amelia Sedley à ses parents. C'est une jeune personne accomplie, bien capable de tenir avec distinction sa place dans une société élégante et cultivée. Ses qualités qui donnent le cachet aux jeunes demoiselles du grand monde, ses perfections qui conviennent à sa naissance et à sa condition, ne font point défaut dans l'aimable Miss Sedley. Son application et son obéissance lui ont concilié tous ses maîtres, et la douceur charmante de son caractère a séduit ses petites comme ses grandes compagnes. Pour la musique, la danse et l'orthographe, pour tous les genres de broderie et de travaux à l'aiguille, on ne peut manquer de trouver qu'elle a réalisé les souhaits les plus légitimes de ses amis. La géographie laisse encore beaucoup à désirer. Nous ne saurions trop recommander aussi l'usage régulier d'un dossier orthopédique au moins 4 heures par jour, et cela pendant 3 ans. C'est le seul moyen d'acquérir cette distinction de tournure et de maintien que l'on exige des jeunes personnes à la mode. Quant aux principes de religion et de moralité, on verra que Miss Sedley est digne d'un établissement qui a été honoré de la présence du grand lexicographe et du patronage de l'incomparable Mrs. Chapone. En quittant la Mall, Miss Amelia emporte avec elle l'affection de ses compagnes et les sentiments les plus tendres de sa maîtresse, qui a l'honneur de se dire, « Madame, votre très humble et très obéissante servante, Barbara Pinkerton. » Postscriptum. Miss Sharp accompagne Miss Sedley. Les plus vives instances pour que le séjour de Miss Sharp à Russell Square ne dépasse pas 10 jours. l'honorable famille chez laquelle elle doit entrer voudrait avoir ses services le plus tôt possible. » Cette lettre terminée, Miss Pinkerton se mit à écrire son nom et celui de Miss Sedley sur la page blanche du dictionnaire de Johnson, ouvrage plein d'intérêt qu'elle ne manquait jamais d'offrir à ses élèves à leur départ de la Mall. Sur la couverture, il y avait une copie des conseils adressés à une jeune demoiselle à son départ du pensionnat de Miss Pinkerton par feu le docteur Johnson, de si vénérable mémoire. C'est que le nom du lexicographe était toujours sur les lèvres de cette majestueuse personne depuis qu'elle devait sa réputation et sa fortune à une visite qu'elle avait reçue de lui. Obéissant à l'ordre de sa sœur aînée d'aller quérir dans la grande armoire le dictionnaire d'usage, Miss Jemima tira du sanctuaire deux exemplaires de l'ouvrage en question, et quand Miss Pinkerton eut achevé sa dédicace sur le premier, Jemima, d'un air hésitant et timide, lui tendit le second. « Et pour qui celui-là, Miss Jemima ?» dit Miss Pinkerton avec une froideur imposante. « Mais pour Beck et Sharp, » répondit Jemima toute tremblante, et la rougeur lui montait à travers les rides de sa face et de son cou. « Pour Beck et Sharp, car elle s'en va aussi. »« Miss Jemima !» s'écria Miss Pinkerton, comme si sa bouche eût ouvert passage à des majuscules. « Êtes-vous bien dans votre bon sens, et à l'avenir ne vous avisez plus de prendre de telles libertés. »« Cependant, ma sœur, vous n'en auriez que pour 22 sous, et cette pauvre Becky sera bien malheureuse si vous ne lui faites pas ce présent. » « Envoyez-moi sur le champ Miss Sedley, » dit Miss Pinkerton. Sans hasarder une parole de plus, la pauvre Jemima sortit tout en désordre, les nerfs bouleversés. Le père de Miss Sedley était un marchand de Londres qui vivait dans une certaine aisance. Quant à Miss Sharp, c'était une élève reçue gratuitement, pour laquelle Miss Pinkerton pensait avoir déjà bien assez fait, sans lui accorder encore à son départ la haute faveur du dictionnaire. Les lettres des maîtresses de pension ont droit à peu près à autant de confiance que les épitaphes des cimetières. Cependant, de même qu'il se trouve parfois au nombre des personnes défuntes un mort qui mérite réellement les éloges que le marbrier prodigue à ses os, un mort qui fut bon chrétien, bon père, bon fils, bon époux, et qui, au moment de son décès, laisse une famille inconsolable pour pleurer sa perte, de même, dans les institutions de garçons comme de filles, on peut de temps à autre mettre la main sur un élève vraiment digne des éloges que lui accorde un maître désintéressé. Et certes, Miss Amelia Sedley était un de ces rares sujets et méritait non seulement tout ce que Miss Pinkerton disait à sa louange, mais encore elle avait nombre de charmantes qualités que notre solennelle et vieille matrone ne pouvait apercevoir par suite de la différence d'âge et de rang qui existait entre elle et son élève. C'était beaucoup de chanter comme un rossignol ou comme Mrs. Bellington, de danser comme Ilisberg ou Parisot, de broder comme une fée, de mettre l'orthographe comme un dictionnaire. Mais elle possédait surtout un cœur si bon, si enjoué, si tendre, si aimable, si généreux, qu'elle gagnait l'affection de tous ceux qui l'approchaient, depuis la respectable matrone jusqu'à la moindre laveuse, jusqu'à la fille de la marchande de gâteaux, pauvre femme borgne qui avait l'autorisation de vendre sa marchandise une fois par semaine aux demoiselles de la Mole. Amelia comptait 12 amis de cœur, 12 intimes sur ses 24 compagnes. L'envieuse Miss Briggs elle-même n'avait jamais laissé échapper une mauvaise parole sur son compte. La haute et puissante Miss Saltire, petite fille de Lord Dexter, lui trouvait une figure distinguée. Et quant à Miss Swartz, la riche créole de Saint-Kitts, à l'épaisse chevelure, elle eut un tel accès de larmes qu'on fut obligé d'envoyer chercher le docteur Floss et de l'inonder de vinaigre aromatique. Miss Pinkerton lui témoignait un attachement calme et digne, comme on peut penser, d'après la haute position et les éminentes vertus de cette dame. Quant à Miss Jemima, elle avait déjà senti ses yeux se gonfler à plusieurs reprises à la pensée du départ d'Amelia, et n'eût été la crainte de sa sœur, elle se serait laissée aller à des crises violentes comme l'héritière d'un Saint-Kitts qui payait d'ailleurs double pension. Un tel luxe de douleur ne pouvait se permettre qu'à des pensionnaires en chambre. Pour l'honnête Jemima qui avait à veiller aux notes, au blanchissage, au raccommodage, à la fabrication des puddings, à l'argenterie et à la vaisselle, mais à quoi bon parler d'elle? Car il est probable que nous ne la retrouverons plus d'ici au dénouement, et quand la grille de fer se sera fermée sur elle et sur sa vénérable sœur, elles ne sortiront guère de leur retraite pour venir se mêler aux personnages de ce récit. Nos rapports devant être des plus fréquents avec Amelia, il n'est pas inutile de dire, dès cette première entrevue, que c'était une nature douce et bonne par excellence. C'est un grand bonheur, dans la vie et dans ce roman qui abonde surtout en scélérats de la plus noire espèce, d'avoir en notre compagnie une si honnête et si bonne personne. Mais comme ce n'est point une héroïne, je me dispenserai de faire son portrait, car en vérité, j'aurais peur que son nez ne fût un peu trop court, que ses joues ne fussent un peu trop pleines et trop colorées pour cet emploi. Quoi qu'il en soit, on voyait sur sa figure s'épanouir les roses de la santé et sur ses lèvres les plus frais sourires. Elle avait des yeux où pétillait la gaieté la plus vive et la plus franche, excepté toutefois lorsqu'ils se remplissaient de larmes. Et c'était bien trop souvent, car cette naïve créature aurait éclaté en sanglots pour la mort de son serin, pour une souris que le chat aurait étranglée au passage, ou pour une parole de réprimande s'il se fût trouvé des gens d'un cœur assez dur pour lui en faire. Miss Pinkerton, cette rigide et irréprochable personne, avait cessé bien vite de la gronder, quoiqu'elle ne s'entendît guère plus en sensibilité qu'en algèbre. Elle avait recommandé particulièrement à tous les maîtres de traiter Miss Sedley avec la plus grande douceur. De la sévérité avec elle n'eût été qu'injustice. Aussi, quand vint le jour du départ, Miss Sedley, toujours entre le rire et les pleurs, se trouva fort embarrassée. Elle se réjouissait de retourner chez elle, et elle s'attristait encore plus de quitter sa pension. Pendant les 3 jours qui précédèrent, Laura Martin ne la quittait pas plus qu'un petit chien. Elle eut à faire et à recevoir au moins 14 présents et à prendre 14 engagements solennels d'écrire chaque semaine. « Envoyez-moi mes lettres sous l'enveloppe de mon grand-père, le comte de Dexter, » dit Miss Saltire, qui, soit dit en passant, était fort râpée. « N'attendez pas la poste, mais écrivez-moi chaque jour, mon cher cœur, » dit l'impétueuse mais affectionnée Miss Schwartz. Et la petite Laura Martin prit la main de son amie et la regardant d'un air sérieux. « Amelia, dans mes lettres, je vous appellerai ma maman. » Eh bien, Maître Jones, qui lisez ce livre à votre cercle, vous traitez, j'en suis sûr, tous ces détails de bouffonnerie grotesque et de bavardage ultra-sentimental. Oui, je vous vois, tout réjoui, en tête à tête avec votre morceau de mouton et votre bouteille de vin, prendre votre crayon et écrire à la marge « niaiserie, bavardage, etc., etc. » Voilà bien un de ces génies sublimes qui n'admirent que le grand, que l'héroïque, dans la vie comme dans les romans. Dans ce cas, il fera bien de prendre congé de nous et de tourner ses pas d'un autre côté. Ceci dit, nous poursuivons. Pendant que Sambo plaçait dans la voiture les fleurs, les présents, les malles et les boîtes à chapeaux de Miss Sedley, ainsi qu'un coffre en cuir bien petit, bien usé, sur lequel Miss Sharp avait très proprement attaché son carton, et que M. Sambo tendit au cocher avec une grimace, à laquelle celui-ci répondit par un rire d'intelligence, l'heure du départ arriva. La douleur de ces derniers moments fut moins vive grâce à l'admirable discours que Miss Pinkerton adressa à son élève. Non que ce discours de séparation disposât Amelia à des réflexions philosophiques ou qu'il l'eût armée de calme contre les épreuves de la vie, ce qui formait la conclusion du discours. Mais ce qu'il était d'une épaisseur, d'une prétention, d'un ennui qui dépassait toute limite. Et Miss Sedley craignait trop sa maîtresse de pension pour laisser percer aucune marque d'impatience. Un gâteau à l'anis, une bouteille de vin furent apportés dans le salon, comme aux occasions solennelles des visites de parents. Après avoir pris sa part de ces rafraîchissements, Miss Sedley put songer à partir. « Voulez-vous entrer, Becky, et prendre congé de Miss Pinkerton ?» dit Miss Jemima à une jeune fille à laquelle personne ne faisait attention et qui descendait l'escalier, tenant à la main son carton à bonnet. « Je le dois, » dit Miss Sharp avec un grand calme et au grand étonnement de Miss Jemima. Puis elle frappa à la porte, et ayant reçu la permission d'entrer, elle s'avança sans la moindre hésitation et dit en français, avec la plus grande pureté d'accent, « Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux. » Miss Pinkerton ne comprenait rien au français, bien qu'elle dirigeât des élèves qui l'entendaient. Elle se mordit les lèvres, releva sa vénérable face ornée d'un nez à l'antique, et au sommet de laquelle se dessinait un large et majestueux turban. Miss Sharp, dit-elle, je vous souhaite le bonjour. Et en parlant, la Sémiramis d'Hammersmith allongeait le bras comme en signe d'adieu et pour donner à Miss Sharp l'occasion de serrer un des doigts de sa main qui resta en route dans ce dessin. Miss Sharp retira la main avec un sourire glacial et une profonde révérence, et refusa l'honneur qu'on voulait lui faire. À ce mouvement, le turban de la Sémiramis éprouva une secousse d'indignation telle qu'il n'en ressentit jamais de pareil. Dans le fait, c'était une petite lutte entre la jeune personne et la vieille matrone, et celle-ci avait le dessous. « Le ciel vous bénisse, mon enfant, » dit-elle en embrassant Amelia et en lançant un regard flamboyant à Miss Sharp par-dessus l'épaule de la jeune fille. « Sortez vite, Becky, » dit Miss Jemima tout en émoi à la jeune personne en la poussant hors du salon. Et la porte se referma sur elle pour toujours. Dans la cour commencèrent les scènes déchirantes du départ. Les mots nous manquent pour une telle peinture. Tous les domestiques étaient réunis, toutes les bonnes amies, toutes les jeunes pensionnaires, et jusqu'au maître de danse qui venait d'arriver. Ce n'était que plaintes, embrassades, larmes et lamentations, sans oublier les crises nerveuses de Miss Schwartz, l'élève en chambre, qui, de sa fenêtre, se livrait à des transports que la plume désespère de retracer. Un cœur sensible saura gré qu'on lui fasse grâce de ces détails. Les adieux sont finis, et nos voyageurs, ou plutôt Miss Sedley, a quitté ses amis. Car, pour Miss Sharp, elle était entrée sans bruit dans la voiture, et personne ne gémissait de la perdre. Sambo ferma la portière sur sa jeune maîtresse en larmes, et grimpa derrière la voiture. « Arrêtez !» cria Miss Jemima, s'élançant vers la grille avec un paquet. « Voici des sandwichs, ma chère, » dit-elle à Amelia. « Vous pourriez avoir faim. Et vous, Becky Sharp, voici un livre pour vous que ma sœur, c'est-à-dire que je... C'est ce dictionnaire de Johnson, vous savez bien. Vous ne pouvez nous quitter sans cela. Bon voyage. En route, cocher. Dieu vous bénisse. » Cette excellente créature rentra dans le jardin, vaincue par ses émotions. Mais, au moment où le cocher fouettait les chevaux, Miss Sharp montrait sa pâle figure à la portière et lançait le livre dans le jardin. Miss Jemima pensa s'évanouir d'épouvante. « Ah, je n'aurais jamais cru que l'audace !» L'émotion l'empêcha de compléter sa phrase. La voiture roulait grand train, la grille était fermée, la cloche retentissait pour la leçon de danse. Et maintenant que le monde s'ouvre à nos deux jeunes filles, adieu à Chiswick Mall. Chapitre 2, où Miss Sharp et Miss Sedley se disposent à entrer en campagne. À peine Miss Sharp, accomplissant l'acte héroïque mentionné au dernier chapitre, eut-elle vu le dictionnaire rouler sur le sable du petit jardin et tomber aux pieds de l'étonnée Miss Jemima, que la figure de la jeune fille, empreinte jusqu'alors de la pâleur de la haine, laissa percer un léger sourire qui n'était guère plus gracieux. Puis elle se jeta au fond de la voiture, et comme dégagée d'un grand poids, « Bon voyage à son dictionnaire, » dit-elle, « et grâce à Dieu, me voici hors de Chiswick. » En présence de ce défi jeté si résolument, Miss Sedley ne resta pas moins interdite que Miss Jemima ne l'était de son côté. Elle venait de quitter sa pension depuis une minute au plus, et ce n'est pas dans un si court espace de temps que se dissipent les impressions de 6 années. Cela est si vrai que chez quelques personnes, cette erreur et ces effrois du jeune âge se conservent tout le reste de la vie. Je connais par exemple un vieux gentilhomme de 68 ans qui me disait un matin à déjeuner, avec toutes les apparences d'une grande agitation, « La nuit dernière, j'ai rêvé que je recevais le fouet du docteur Rain. » Dans la durée d'un somme, son imagination l'avait fait remonter à 40 années. Le docteur Rain et son paquet de verges lui inspiraient encore à 68 ans autant de terreur qu'il lui en avait causé à 13. Si le docteur, avec son boulot flexible, se fût dressé devant lui en chair et en os, et bien qu'il marquât 68 à l'horloge de la vie, lui eût dit de sa voix redoutée « Allons, drôle, mettez bas votre pantal !» Aussi Miss Sedley resta toute stupéfaite de cet acte d'insubordination. « Enfin, qu'avez-vous fait, Rebecca ? » dit-elle après une pause. « Croyez-vous donc que Miss Pinkerton va sortir pour m'ordonner de rentrer dans sa prison d'enfer ?» dit Rebecca en riant. « Non, mais... » « J'exècre cette maison, » continua Miss Sharp, emportée par sa colère. « J'espère ne jamais la revoir. Je voudrais qu'elle fût au fond de la Tamise, et si Miss Pinkerton s'y trouvait, ce n'est certes pas moi qui irais l'y pêcher. J'aurai plaisir à la voir au milieu de l'eau avec son turban, ses jupes flottant à la suite et son nez à l'avant, formant la proue du navire. « Ciel !» s'écria Miss Sedley. « Eh bien, votre nègre ira-t-il le lui dire ?» continua Miss Rebecca en riant. « Qu'il descende, s'il veut, et aille conter à Miss Pinkerton que je la déteste de toute mon âme. Je voudrais qu'il en eût envie. Je voudrais lui prouver mon aversion. Depuis 2 ans, je n'ai reçu de sa part qu'insultes et outrages. J'ai été traité par elle plus mal qu'une fille de cuisine. Jamais mot d'affection ni d'amitié, excepté de votre part. J'étais bonne pour soigner les petites filles de la basse classe et pour parler français aux jeunes demoiselles jusqu'à m'en faire prendre en dégoût ma langue maternelle. Quant à parler français à Miss Pinkerton, c'était le plus mauvais tour qu'on pût lui jouer. Elle n'y comprenait mot et était trop fière pour l'avouer. C'est là, je crois, la cause de mon départ. J'en remercie le ciel et cela me fait aimer le français. Vive la France, vive l'empereur, vive Bonaparte. « Oh, Rebecca, Rebecca, quelle honte !» s'écria Miss Sedley, car c'était le plus grand blasphème qui pût sortir de la bouche de Rebecca. Dire alors en Angleterre « longue vie à Bonaparte » était comme si l'on eût dit « longue vie à Lucifer ». Pouvez-vous bien avoir ces mauvaises pensées de vengeance et de haine ? Si la vengeance est une mauvaise pensée, elle est au moins naturelle, repartit Rebecca, et je ne suis pas un ange. Elle ne mentait pas. On a pu en effet remarquer que dans cette conversation, Miss Sharp a eu 2 fois l'occasion de remercier le ciel. La première pour l'avoir délivrée de personnes qu'elle détestait, et en second lieu pour lui avoir fourni l'occasion de mettre ses ennemis dans l'embarras et de les couvrir de confusion. Ce ne sont pas là des motifs bien légitimes de reconnaissance envers le ciel, ni de ceux qui peuvent venir à l'esprit de personnes d'un caractère doux et bienveillant. Miss Rebecca n'avait rien de doux ni de bienveillant dans le caractère. Tout le monde en usait mal avec elle, disait cette jeune misanthrope, il faut mieux dire misogyne, car pour le sexe masculin, on peut déclarer qu'elle en avait encore fort peu l'expérience. Tout le monde en usait mal à son égard, disait-elle. Cependant, nous sommes disposés à croire que ces personnes de l'un ou de l'autre sexe, qui sont les victimes de tout le monde, n'ont en général que ce qu'elles méritent. Le monde est un miroir qui renvoie à chacun ses propres traits. Si vous froncez le sourcil en le regardant, il vous jette un coup d'œil renfrogné. Riez, au contraire, avec lui, et il se montrera bon compagnon. Avis à vous, jeunes gens, pour régler votre choix. Si on négligeait Miss Sharp, c'est qu'elle était connue pour n'avoir jamais rendu service à personne. On ne peut pas trouver 24 demoiselles, tout aussi aimables que l'héroïne de ce roman, Miss Sedley, choisie précisément par nous comme la mieux douée de toutes. Autrement, rien au monde ne nous eût empêché de mettre à sa place Miss Fartz ou Miss Crump ou Miss Hopkins. On aurait eu tort d'espérer rencontrer chez tout le monde le caractère doux et aimable de Miss Amelia Sedley et cette bonne volonté à vaincre en toutes circonstances les brusqueries et les rebuts de Rebecca. Le père de Miss Sharp était artiste et, en cette qualité, avait donné des leçons de dessin dans la maison de Miss Pinkerton. C'était un habile homme, bon vivant, bien réjoui, mais brouillé avec le travail. Ses plus grandes dispositions étaient à faire des dettes, et son faible le menait toujours à la taverne. Quand il avait bu, il était dans l'usage de battre sa femme et sa fille, et le lendemain matin, fatigué d'un grand mal de tête, il adressait ses injures à la foule insouciante de son génie, puis décochait ses traits non moins vifs et quelquefois bien ajustés contre la sottise de ses confrères les peintres. Comme il était fort mal à l'aise pour subvenir à ses besoins, et que dans Soho où il vivait, il devait de l'argent à 1 000 à la ronde, il pensa améliorer sa position en épousant une jeune femme, française d'origine et danseuse de profession. Miss Sharp ne parlait jamais de l'humble condition de sa mère, mais elle vantait beaucoup la noble et illustre famille des Entrechats, originaire de Gascogne, et tirait vanité d'appartenir à de tels ancêtres. Il est bon de constater que plus elle avançait dans la vie, plus la race de cette jeune dame gagnait en noblesse et en illustration. La mère de Rebecca avait fait son éducation on ne sait pas bien où, et sa fille parlait le français avec la pureté des Parisiens. C'était à cette époque une qualité précieuse et qui valut à Rebecca son entrée chez l'austère Miss Pinkerton. Car sa mère étant morte, son père, qui se trouvait lui-même dans un état désespéré, écrivit à Miss Pinkerton, après sa 3e attaque de délirium tremens, une lettre pathétique où il mettait l'orpheline sous sa protection. Peu après, il descendit dans la tombe en laissant deux baillis se débattre sur son corps. Rebecca avait 17 ans lorsqu'elle vint à Chiswick. On la traita comme une pensionnaire à bourse entière. Elle était tenue de parler français et jouissait en retour de l'avantage de vivre là sans rien payer. Et même, moyennant une somme modique par an, elle recueillait des professeurs attachés à la maison quelques bribes d'enseignement. Petite de taille, vive de tournure, elle était pâle et avait les cheveux d'un blond roux. Ses yeux, ordinairement baissés, s'ouvraient si larges lorsqu'il vous regardait et prenaient une expression si singulière et si communicative que le révérend Mr. Crisp, tout frais sorti d'Oxford et vicaire du ministre de Chiswick, le révérend Flowerdow, s'éprit d'amour pour Miss Sharp. Un coup d'œil l'avait frappé à mort dans l'église même de Chiswick. Un coup d'œil dirigé du banc des pensionnaires au pupitre de lecture. Notre jeune passionné allait prendre le thé chez Miss Pinkerton, à laquelle il avait été présenté par sa maman. Il avait même prononcé le mot de mariage dans un billet intercepté que la marchande de pommes avait été chargée de remettre. Mrs. Crisp, appelée soudainement à Buxton, emmena avec elle son cher fils. Mais l'idée seule qu'un vautour avait pu s'introduire parmi les colombes de Chiswick souleva dans la poitrine de Miss Pinkerton un tel flot d'indignation qu'elle eût renvoyé Miss Sharp si elle n'eût pas été engagée par une parole solennelle. Malgré toutes les protestations de la jeune personne, elle ne put jamais croire que ses entretiens avec Mr. Crisp se fussent bornés à ceux que Rebecca avait eus sous ses yeux en deux occasions lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour prendre le thé. Auprès des grandes demoiselles de l'établissement, Rebecca Sharp pouvait passer pour une enfant. Mais elle possédait cette désolante expérience qu'on doit à la pauvreté. Elle avait eu affaire à plus d'un créancier et avait su l'éloigner de la porte de son père. Elle savait comment enjôler et mettre de bonne humeur les fournisseurs pour gagner de la sorte un repas de plus. D'ordinaire, elle allait festoyer avec son père, qui était très fier de son esprit, et elle entendait les propos de ses grossiers compagnons, souvent peu convenables pour une jeune fille. Mais elle n'avait jamais été jeune fille, à ce qu'elle disait, et était femme depuis 8 ans. Pourquoi Miss Pinkerton avait-elle admis un oiseau si dangereux dans sa cage? Le fait est que la vieille dame tenait Rebecca pour la plus douce créature, tant elle avait admirablement joué son rôle d'ingénue toutes les fois que son père l'avait conduite à Chiswick. C'était à ses yeux une modeste et innocente petite fille. L'année qui précéda celle où elle fut admise dans la maison, elle était alors âgée de 16 ans, Miss Pinkerton, de son air le plus majestueux, et à la suite d'un petit discours, lui remit en présent une poupée confisquée à Miss Swindle, qu'on avait surprise à faire avec elle la dinette pendant les heures de classe. Que de colibets échangés entre le père et la fille lorsqu'ils rentraient chez eux, après une soirée passée chez Miss Pinkerton, et surtout au sujet des discours prononcés en présence des professeurs réunis. Quelle n'eût pas été la colère de cette bonne Miss Pinkerton si elle avait vu comme cette petite grimacière de Rebecca la tournait en caricature à l'aide de sa poupée. Elle avait avec elle de longs dialogues qui faisaient les délices de Newman Street, de Gerrard Street et de tout le quartier des artistes. Les jeunes peintres, en venant prendre leur grog aux Genièvres chez leur doyen, si bon diable et si paresseux, ne manquaient jamais de demander à Rebecca si Miss Pinkerton était à la maison. Elle n'était que trop connue d'eux, la pauvre créature. Une fois Rebecca eut l'honneur de passer quelques jours à Chiswick. Elle en rapporta une Jemima, c'est-à-dire une autre poupée à l'image de Miss Jemmy. Et cependant l'honnête fille lui avait donné en confiture et en pâtisserie de quoi régaler 3 enfants, et glisser de plus à son départ une pièce de 7 shillings. Mais l'esprit railleur de cet enfant était plus fort que la reconnaissance, et elle sacrifia Miss Jemmy avec aussi peu de pitié que sa sœur. Lorsque la mort lui enleva son père, la Mole s'ouvrit pour elle comme une nouvelle famille. Mais les rigides observances de la maison lui étaient insupportables. Les prières et les repas, les leçons et les promenades, qui avaient lieu avec une ponctuelle régularité, la mettaient à bout de patience, et quand elle se reportait à la vie libre et misérable du vieil atelier de Soho, elle se prenait à le regretter. Tout le monde, et jusqu'à elle, s'imaginait qu'elle était minée par la douleur de la perte de son père. Dans sa petite chambre, nichée sous les combles, ses jeunes compagnes l'entendaient marcher et sangloter pendant toute la nuit. Mais c'était de rage et non de douleur. Elle n'avait guère dissimulé jusqu'au moment où, jetée dans l'abandon, elle apprit à feindre. Elle s'était peu mêlée à la société des femmes. Son père, tout relégué du monde qu'il était, ne manquait pas de talent, et sa conversation était 100 fois plus agréable que le bavardage de telle personne de son sexe, comme elle pouvait maintenant en rencontrer. La prétentieuse vanité de la vieille maîtresse d'école, la gaieté intempestive de sa sœur, les conversations un peu niaises et les médisances des grandes pensionnaires, la glaciale exactitude des maîtresses, lui causaient un égal ennui. Si elle avait eu un cœur tendre et maternel, cette infortunée jeune fille, elle aurait trouvé du charme et de l'intérêt dans le babil et les confidences des petites filles qui lui étaient confiées. Mais elle vécut avec elle 2 années, et aucune ne regretta son départ. Il n'y avait que le bon et tendre cœur d'Amélia qui put la toucher et se faire aimer d'elle. Mais qui aurait pu ne pas aimer Amélia? Le bonheur, les avantages sociaux que ses jeunes compagnes avaient sur elle, livraient Rebecca au cruel tourment de l'envie. « Voyez, disait-elle, quels airs se donne celle-là, parce qu'elle est petite fille d'un comte. Comme elle s'incline et rampe devant cette créole, et cela à cause de ses 100 000 livres. Je suis 100 fois plus vive et plus agréable que cette créature avec tout son or. Ma naissance vaut bien celle de cette petite fille de comte, avec tous ses parchemins. Et cependant, chacun ici me laisse à l'écart, tandis que chez mon père, tous ses amis manquaient les bals et les fêtes pour venir passer la soirée avec moi. » Elle résolut en conséquence de s'affranchir à tout prix de la prison où elle se trouvait. Elle se mit dès lors à travailler dans ce but et à dresser ses plans pour l'avenir. D'abord, elle profita des moyens de s'instruire que sa position lui offrait. Déjà musicienne et possédant bien une langue étrangère, elle parcourut rapidement le cercle des études regardées comme nécessaires aux dames de cette époque. Elle travaillait sans relâche la musique et, un jour de sortie où elle était restée à la pension, notre auguste matrone l'entendit exécuter un morceau avec une telle perfection qu'elle pensa sagement pouvoir s'épargner la dépense d'un maître pour les plus petites et annonça à Miss Sharp qu'à l'avenir elle aurait à leur enseigner la musique. La jeune fille refusa pour la première fois et au grand étonnement de la majestueuse maîtresse de pension. « Je suis ici, dit brusquement Rebecca, pour parler français avec les enfants, non pour leur enseigner la musique et ménager votre argent. » Payez et je la leur apprendrai. » Notre auguste matrone fut obligée de céder et naturellement lui en voulut à partir de ce jour. « Pendant 35 ans, dit-elle, je n'ai jamais vu personne oser se révolter dans ma propre maison contre mon autorité. J'ai réchauffé une vipère dans mon sein. » « Une vipère ? Vous badinez, dit Miss Sharp, presque pâle de saisissement. Vous m'avez prise parce que je vous étais utile. Ce n'est point une question de reconnaissance entre nous. Je déteste cette maison et n'aspire qu'à la quitter. Je ne veux rien faire ici que ce que je suis obligé d'y faire. » La vieille dame m'avait beau lui demander si elle songeait bien qu'elle parlait à Miss Pinkerton. Rebecca lui riait au nez d'un air insultant et vraiment diabolique, au point que la maîtresse de pension en eut presque une attaque de nerfs. « Donnez-moi de l'argent, dit la jeune fille, ou bien, si vous l'aimez mieux, trouvez-moi une bonne place de gouvernante dans une noble famille. » « Vous n'avez qu'à vouloir. » Dans toutes leurs querelles subséquentes, elle en revenait toujours à cet argument. « Trouvez-moi une position. Nous ne pouvons nous sentir, et je suis prête à vous quitter. » La digne Miss Pinkerton, bien qu'elle fût décorée d'un nez à la romaine et d'un turban, et qu'elle fût taillée comme un grenadier, ne possédait pas cependant une volonté et une énergie égales à celle de sa jeune pensionnaire. En vain, elle lutta contre elle et chercha à l'intimider. Se voyant une fois gourmandée par elle en public, Rebecca eut recours au stratagème mentionné plus haut. Elle répondit en français, ce qui dérouta complètement la vieille femme. Pour maintenir l'autorité dans la pension, il fallait écarter cette rebelle, ce monstre, ce serpent, cette torche incendiaire. Sur ces entrefaites, Miss Pinkerton, ayant appris que la famille de Sir Pitt Crawley avait besoin d'une gouvernante, recommanda aussitôt Miss Sharp pour cette place, tout monstre et tout serpent qu'elle était. « Je n'ai rien à reprendre, pensa-t-elle, dans la conduite de Miss Sharp, si ce n'est à mon égard, et ne puis lui refuser des connaissances et des talents accomplis. Elle ne peut que faire honneur au système d'éducation adopté dans ma maison. » C'était ainsi que la maîtresse de pension mettait sa conscience d'accord avec ses recommandations, qu'elle parvenait à dégager sa parole et que sa pensionnaire se trouvait libre enfin. La bataille décrite ici en quelques lignes dura naturellement plusieurs mois. Miss Sedley avait aussi 17 ans et était sur le point de quitter la pension. Par suite de l'amitié qu'elle ressentait pour Miss Champ, seul point dans le caractère d'Amelia qui, de l'aveu de la vénérable matrone, ne donna pas satisfaction à sa maîtresse, elle l'invita à venir passer une semaine chez ses parents avant de se rendre à ses devoirs de gouvernante dans la maison où on l'attendait. Ainsi s'ouvrait le monde pour ces deux jeunes femmes. Pour Amelia, il se présentait comme une fleur dans tout l'éclat de sa fraîcheur et de sa nouveauté. Il n'était pas aussi nouveau pour Rebecca, car, s'il faut dire toute la vérité sur l'affaire du révérend Crisp, la marchande de gâteaux insinua à quelqu'un qui affirma le fait, sous la foi du serment à une autre personne, qu'il y en avait beaucoup plus entre Mr. Crisp et Miss Sharp qu'on en avait confié au public, et que cette lettre était la réponse à une autre. Mais qui pourra découvrir la vérité sur ce point? En tout cas, si ce n'était pas pour Rebecca un début dans le monde, c'était du moins une rentrée. Dans le cours du trajet jusqu'à la barrière de Kensington, Amelia, sans avoir oublié ses compagnes, avait fini par sécher ses larmes. D'abord, elle avait rougi avec un sentiment de plaisir à la vue d'un jeune officier des Horse Guards qui avait caracolé à la portière et, lui jetant un coup d'œil, avait dit « Vrai Dieu, la jolie fille !» Puis, avant d'arriver à Russell Square, la conversation s'était longuement étendue sur l'article des modes. Les jeunes femmes portaient-elles de la poudre sur leurs cheveux, des baleines dans leurs jupes à la présentation? Miss Amelia aurait-elle cet honneur? Car elle savait qu'on devait la mener au bal du Lord Maire. Arrivée à la maison paternelle, Miss Sedley, à l'aide du bras de Sambo, se lança aussi gaie, aussi radieuse qu'aucune fille de la bonne cité de Londres, et tous les serviteurs de la maison étaient réunis dans la cour pour fêter leur jeune maîtresse et sourire à sa bienvenue. Après ses premiers embrassements, Miss Sedley montra à Rebecca toutes les chambres de la maison et ce qu'il y avait dans chaque chambre, ses livres, son piano, ses robes, tous ses colliers, ses broches, ses dentelles. Elle força Rebecca d'accepter des bagues de cornaline et de turquoise et une écharpe de mousseline légère qui maintenant était trop petite pour elle. En dépit de la discrétion dont son amie s'était armée, elle demanda à sa mère l'autorisation de lui offrir son châle de cachemire blanc. Elle pouvait bien s'en passer, puisque son frère Joseph lui en rapportait deux de l'Inde. Quand Rebecca vit les deux magnifiques châles de cachemire que Joseph Sedley avait rapportés à sa sœur, elle dit avec un accent de vérité « Ce doit être très bon d'avoir un frère !» Ce qui toucha de compassion le cœur sensible d'Amelia. Elle pensait que son amie était seule au monde, pauvre orpheline, sans amis, sans parents. « Non, vous ne serez pas abandonnée, Rebecca, » dit Amelia. « Je serai votre amie. Je vous aimerai comme une sœur. Oui, comme une sœur. » Mais où trouver des parents comme les vôtres, bons, riches, affectionnés, qui vous donnent tout ce que vous désirez, et leur amour plus précieux que tout le reste? Mon pauvre père ne me donnait rien, et je n'avais en tout que deux robes. Vous avez un frère, un bon frère. Vous devez bien l'aimer. » Amelia se mit à rire. « Et quoi, ne l'aimez-vous pas, vous qui dites que vous aimez tout le monde ?»« Oui, sans doute, seulement... »« Seulement quoi ?» Seulement Joseph semble s'inquiéter fort peu si je l'aime ou non. Il m'a donné ses deux doigts à serrer après une absence de 10 années. Il est très bon, très dévoué, mais il me parle rarement, et je crois qu'il aime mieux sa pipe que sa... » Ici Amelia s'interrompit, car pourquoi dire du mal de son frère? « Il était très bon pour moi quand j'étais enfant, » continua-t-elle. « Je n'avais que 5 ans quand il est parti. » « Il doit être riche, » reprit Rebecca, car on dit que tous les nababs indiens le sont énormément. « Je crois qu'il a un très gros revenu. »« Est-elle gentille, votre belle-sœur ? » ?»« Allons donc, Joseph n'est point marié, » dit Amelia, se remettant à rire. Peut-être en avait-elle déjà informé Rebecca, mais cette jeune femme ne fit pas semblant de s'en souvenir. Elle répéta même plusieurs fois qu'elle s'attendait à voir à Amelia toute une bande de neveux et de nièces. Elle regrettait beaucoup que Mr. Sedley ne fût pas marié. Elle était sûre qu'Amelia lui avait dit qu'il l'était. Pour sa part, elle raffolait des petits-enfants. « Je crois que vous en aviez suffisamment à Chiswick, » dit Amelia, tout étonnée de cette tendresse subite de son amie. Hier encore, Miss Sharp ne se serait pas hasardée à avancer des propositions dont on eût pu si facilement démontrer la fausseté. Mais rappelons-nous qu'elle n'avait que 19 ans et qu'elle était bien novice dans l'art de feindre, l'innocente créature. Toutefois, le motif de cette série de questions pouvait se traduire tout simplement de la sorte. Si M. Joseph Sedley est riche et garçon, pourquoi ne l'épouserais-je pas? Je n'ai que 15 jours devant moi, à la vérité, mais je ne risque rien d'en faire l'essai. » Elle arrêta dans son esprit cette louable tentative. Elle redoubla de caresses pour Amelia, elle couvrit de baisers le collier de Cornaline et déclara qu'elle ne voulait jamais, jamais s'en séparer. Lorsque sonna la cloche du dîner, elle descendit les escaliers, son bras passé autour de la ceinture de son amie, comme font les jeunes femmes. Elle était si émue à la porte du salon qu'elle trouva à peine le courage d'entrer. « Sentez mon cœur comme il bat, ma chère, » dit-elle à son amie. « Mais je ne le sens pas, » dit Amelia. « Entrons et n'ayez pas peur. Mon père ne vous fera pas de mal. » Chapitre 3. Rebecca en présence de l'ennemi. Un gros et gras gaillard, en épaisse botte de daim à la hongroise, enseveli sous plusieurs cravates qui s'élevaient presque à la hauteur de son nez, avec un gilet rayé de rouge et un habit vert pomme, sur lequel brillaient des boutons d'acier aussi larges qu'une couronne, était à lire le journal au coin du feu lorsque les deux filles entrèrent. Il bondit de son fauteuil, rougit beaucoup et, à cette apparition, éclipsa presque toute sa face derrière sa cravate. « Ce n'est que votre sœur, Joseph, » dit Amelia en riant et en lui prenant les deux doigts qu'il lui présentait. « Je suis revenu pour tout de bon. Voici mon amie, Miss Sharp, dont vous m'avez déjà entendu parler. » « Non, jamais, sur ma parole !» répondit la tête cachée sous les cravates en redoublant les signes de dénégation. « C'est-à-dire, si, il fait abominablement froid, mademoiselle. » Et en même temps, il tisonnait le feu de tout son pouvoir, bien qu'on fût au milieu de juin. « Il est très bien, » dit Rebecca à Amelia, de manière à se faire entendre. « Le pensez-vous ? » reprit celle-ci. « Alors je vais le lui dire. »« Ma chère, pour rien au monde !» dit Miss Sharp, tressaillant comme une biche effarouchée. Elle avait d'abord fait un pudique et respectueux salut au jeune homme, puis ses yeux s'étaient fixés si obstinément sur le tapis que c'était merveille qu'elle eût pu l'entrevoir. « Je vous remercie, mon frère, de vos magnifiques châles, » dit Amelia au tisonneur. « N'est-ce pas qu'ils sont beaux, Rebecca ?»« Oh, bien beaux !» répondit Miss Sharp, et ses yeux allèrent droit du tapis au chandelier. Joseph continua à faire grand bruit dans le feu avec la pelle et les pincettes, tout soufflant, tout haletant et devenant aussi rouge que sa face blême pouvait le permettre. « Je ne puis vous faire d'aussi jolis présents, » continua sa sœur, « mais pendant que j'étais à la pension, je vous ai brodé une jolie paire de bretelles. » « Mais en vérité, Amelia, » s'écria son frère en proie à une vive agitation, « je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Et en même temps, il se pendit de toutes ses forces au cordon de la sonnette, qui lui resta entre les mains. Nouveau sujet de confusion pour le pauvre garçon. « Pour l'amour du ciel, voyez si mon buggy est à la porte. Je ne puis attendre, je vais sortir. Le diable emporte ce groom, il faut que je m'en aille. » Au même instant entra le père de famille, secouant ses breloques comme un vrai marchand anglais. « De quoi parlez-vous, Amy ? » dit-il. « Joseph me prie de voir si son buggy est à la porte. Qu'est-ce qu'un buggy, papa ?» « C'est un palanquin à un cheval, » dit le vieux père, qui avait des prétentions au bel esprit. Joseph se laissa aller à un violent accès de rire. Mais, ayant rencontré le regard de Miss Sharp, il s'arrêta subitement comme frappé d'un coup invisible. « Cette jeune dame est votre amie. Miss Sharp, je suis bien aise de vous voir. Avez-vous déjà, avec Amy, querellé Joseph sur ses intentions de sortir ? C'est que j'ai promis à bon ami, qui est employé avec moi, « d'aller le prendre pour dîner, » repartit Joseph. « Allons donc, votre mère ne vous a-t-elle pas dit que vous dîniez ici ?»« Mais sous ce costume, c'est impossible. Regardez-le un peu, Miss Sharp. N'est-il pas assez bien pour dîner partout » Là-dessus, Miss Sharp regarda son amie, et elles partirent d'un éclat de rire qui fit grand plaisir au vieux père. « Avez-vous jamais vu chez Miss Pinkerton des bottes en peau de daim de la tournure de celle-ci » continua-t-il en poursuivant ses avantages. « De grâce, mon père !» s'écria Joseph. « Aurais-je blessé sa susceptibilité ? Je crois, Mrs. Sedley, ma chère amie, avoir blessé la susceptibilité de votre fils. J'ai plaisanté sur ses bottes de daim. Demandez-lui, Miss Sharp, si ce n'est pas cela. Allons, Joseph, soyez amis avec Miss Sharp et allons dîner. Il y a un pilot, Joseph, juste comme vous les aimez. Et papa a rapporté le plus beau turbo de Billingsgate. Vite, monsieur, donnez votre bras pour descendre à Miss Sharp et je vous suivrai avec ces deux jeunes dames, dit le père en prenant le bras de sa femme et de sa fille et en sortant gaiement. Que Miss Sharp ait résolu au fond de son cœur de faire la conquête de ce gros et gras garçon, nous n'avons, mesdames, aucun droit de l'en blâmer. Car si le soin de la chasse au mari est généralement, par un sentiment de modestie très louable, départi par les jeunes filles à la sagesse de leur mère, il faut se souvenir que Miss Sharp n'avait nul parent d'aucun genre pour entrer à sa place dans ces négociations délicates. Si donc elle ne cherchait un mari pour son propre compte, il y avait peu de chances qu'elle trouvât, dans tout l'univers, quelqu'un qui s'en occupât pour elle. Qu'est-ce qui engage toute notre belle jeunesse à aller dans le monde, si ce n'est la noble ambition du mariage? Qu'est-ce qui fait partir toutes ces bandes pour les eaux? Qu'est-ce qui fait danser jusqu'à 5 heures du matin dans une saison mortelle? Qu'est-ce qui fait travailler les sonates au pianoforte et apprendre 4 romances d'un maître à la mode, quand paye 1 guinée le cachet? Jouer de la harpe quand on a le bras joli et bien fait, et porter des chapeaux et des fleurs vers Lincoln, si ce n'est l'espérance qu'avec tout cet arsenal et ses traits meurtriers, on frappera au cœur quelque souhaitable jeune homme. Qu'est-ce qui engage de respectables parents à mettre leur maison sans dessus-dessous, à dépenser la moitié de leurs revenus en souper de bal et en champagne frappé? Serait-ce par amour désintéressé de leurs semblables et par l'unique désir de voir les jeunes gens heureux au milieu de la danse? Eh, mon Dieu, c'est qu'ils désirent marier leur fille. Et de même que Mrs. Sedley, dans les profondeurs de son âme maternelle, avait déjà arrangé 12 plans pour l'établissement de son Amelia, de même Rebecca, fort aimable, mais sans appui, se détermina à faire de son mieux pour s'assurer un mari qui lui était encore plus nécessaire qu'à son ami. Son imagination, très vive d'ailleurs, était en outre excitée par les lectures qu'elle avait faites dans les contes arabes et la géographie de Guthrie. Et en réalité, pendant qu'elle s'habillait pour le dîner, d'après les renseignements recueillis auprès d'Amelia sur la richesse de son frère, elle bâtissait les plus magnifiques châteaux en Espagne dont on ne pouvait lui contester la libre disposition. Elle entrevoyait un mari qui était encore, il est vrai, dans les brouillards. Elle s'affublait d'une foule de châles, de turbans, de bracelets, de diamants. Elle se pavanait sur un éléphant au son de la marche de Barbe Bleue pour aller rendre visite au grand Mogol. Douce vision des 1001 nuits. Que de jeunes et vives créatures comme Rebecca Sharp se sont arrêtées avec délice sur ces rêves fantastiques que l'on fait les yeux ouverts. Joseph Sedley avait 12 ans de plus que sa sœur Amelia. Il était fonctionnaire civil dans la Compagnie des Indes Orientales et, au temps où nous écrivons, son nom figurait à l'article Bengale dans l'East India Register comme receveur de Boklewala, poste honorable et lucratif, comme tout le monde sait. Pour connaître les places importantes que Joseph fut appelé à remplir dans le service, nous renvoyons le lecteur à la même feuille périodique. Boklewala est situé dans un district solitaire, marécageux et fort agréable du reste. Il est renommé pour la chasse à la bécasse et, de temps en temps, on y peut tuer un tigre. Rangoon, qui possède un magistrat, n'en est éloigné que de 40 000 et à 30 000 plus loin, se trouve une station de cavalerie. C'est du moins ce que Joseph écrivit à ses parents quand il prit possession de sa place de receveur. Joseph avait passé 8 ans au milieu d'une solitude complète dans ce charmant séjour. Il était bien rare qu'il vît une face de chrétien plus de 2 fois par an, alors que le détachement escortait à Calcutta les impôts qu'il avait touchés. Il fut, par bonheur, atteint d'une maladie de foie. Obligé d'aller se faire soigner en Europe, il trouva dans son pays natal 1000 occasions de fêtes et de plaisirs. Il ne vivait pas à Londres au sein de sa famille, mais avait son habitation à part, comme un joyeux et bon compagnon. Avant de partir pour l'Inde, il était encore trop jeune pour se mêler aux plaisirs enivrants de la ville. Aussi, il s'y plongea à son retour avec une ardeur effrénée. Il conduisait des équipages au parc, dînait aux tavernes à la mode, fréquentait les théâtres, comme c'était le bon ton à cette époque, et se montrait à l'opéra toujours en pantalon collant et en chapeau à cornes. À son retour dans l'Inde, il raconta à tout propos et avec beaucoup d'enthousiasme cette période de son existence, et donna à entendre que Brummel et lui avaient été les lions à la mode. Et cependant, ils vivaient aussi solitaires que dans les broussailles de Boglewala. Ils connaissaient à peine un homme dans la métropole. Et sans son docteur, ses pilules et sa maladie de foie, il serait mort d'ennui et de solitude. Lourd, bourru, mais bon vivant, la vue d'une femme lui causait les plus terribles paniques. Aussi le voyait-on rarement dans le salon de son père, à Russell Square, où les lazzis du bonhomme mettaient son amour-propre dans les transes. Joseph s'était vivement préoccupé et même alarmé de son embonpoint. Plusieurs fois déjà, il avait voulu prendre un parti énergique pour se débarrasser de cet excès de graisse, mais son indolence et l'amour de ses aises l'avaient bien vite détourné de ses projets de réforme, et il en était encore à ses 3 repas par jour. Jamais il n'était bien mis, et pourtant ce n'était pas faute de se donner beaucoup de tourments pour parer sa grasse personne. Il passait plusieurs heures chaque jour à cette occupation. Son valet faisait sa fortune des rebuts de sa garde-robe, et sur sa toilette, on trouvait plus de pommade et plus d'essence que n'en employa jamais une beauté décrépite. Pour avoir bonne tournure dans son habit, il avait recours à toutes les sangles, brides et ceintures alors inventées. Comme tous les hommes gras, il exigeait que ses habits fussent trop étroits et recherchait les plus brillantes couleurs et la coupe la plus jeune. Lorsqu'il s'habillait dans l'après-midi, c'était pour aller au parc, tout seul, faire sa promenade en voiture. Puis il rentrait pour s'habiller de nouveau et aller dîner, encore tout seul, au café Piazza. Il était aussi vain qu'une fille, et peut-être cette extrême sauvagerie venait-elle de son extrême vanité. Si Miss Rebecca, dès son entrée dans le monde, peut venir à bout de lui, c'est qu'elle est une jeune personne d'une rare habileté. Son premier début prouvait d'ailleurs une grande adresse. En disant que Sedley était bel homme, elle savait qu'Amelia le répéterait à sa mère, qui le redirait probablement à Joseph, et de toute manière ne lui en voudrait pas du compliment fait à son fils. Toutes les mères sont les mêmes. Allez dire à Sycorax que son fils Caliban est aussi beau qu'Apollon, elle en sera flattée dans son amour-propre de sorcière. Peut-être aussi Joseph Sedley avait-il surpris le compliment au passage. Rebecca avait parlé assez haut pour cela. Et s'il l'avait entendu, comme déjà dans son opinion il se tenait pour un très beau garçon, cet éloge avait dû caresser chacune des fibres de sa grasse personne et les faire tressaillir de plaisir. Mais il lui vint une amère pensée. « La petite se moquerait-elle de moi » songea-t-il. Voilà pourquoi il s'était aussitôt élancé vers la sonnette, se disposant à la retraite, comme nous l'avons vu, quand les plaisanteries de son père et les instances de sa mère le contraignirent à rester au logis. Il conduisit la jeune demoiselle à la salle à manger, l'esprit en proie aux plus vives incertitudes. « Croit-elle réellement que je suis beau ? » pensa-t-il, « ou seulement s'amuse-t-elle de moi ?» Nous avons dit que Joseph Sedley était aussi vain qu'une jeune fille. Nous savons bien que les jeunes filles retournent la médaille et disent d'une personne de leur sexe « Elle est vaine comme un homme ». Et elles ont bien raison. Le sexe barbu est aussi âpre à la louange, aussi précieux dans sa toilette, aussi fier de sa puissance séductrice, aussi convaincu de ses avantages personnels que la plus grande coquette du monde. Au bas des escaliers, Joseph rougissait de plus en plus, et Rebecca, dans une tenue très modeste, tenait ses yeux fixés à terre. Elle portait une robe blanche. Ses épaules nues avaient l'éclat de la neige. L'image de la jeunesse, de l'innocence sans appui, l'humble simplicité d'une vierge était empreinte dans toute sa tenue. « Je n'ai plus maintenant qu'à garder le silence, » pensa Rebecca, et témoignait beaucoup d'intérêt pour tout ce qui concerne l'Inde. À ce qu'il paraît, Mrs. Sedley avait préparé à son fils un excellent curry comme il les aimait, et dans le courant du dîner, en offrit une portion de ce plat à Rebecca. « Qu'est-ce que cela ? » dit-elle, en jetant un coup d'œil interrogatif à M. Joseph. « Parfait, » dit-il. Sa bouche était pleine, et sa face toute rouge exprimait les jouissances de la mastication. « Ma mère, c'est aussi bon que les currys faits en Inde. » « Oh, j'en veux goûter, si c'est un plat indien, » dit Miss Rebecca. « Il me semble que tout ce qui vient de là doit être excellent. »« Donnez du curry à Miss Sharp, ma chère, » dit M. Sedley en riant. Rebecca n'en avait goûté de sa vie. « Eh bien, trouvez-vous toujours bon tout ce qui vient de l'Inde ?» reprit M. Sedley. « C'est excellent, » dit Rebecca, « que le poivre de Cayenne mettait à la torture. »« Prenez avec cela un chili, » dit Joseph, qui commençait à faire attention. » Un chili, dit Rebecca, qui n'en pouvait plus. Oh oui. Et elle pensait qu'un chili était quelque chose de rafraîchissant. On lui en apporta un. Quelle couleur fraîche et verte, dit-elle. Elle en mit un dans sa bouche. C'était plus cuisant encore que le curry. Elle ne put l'endurer plus longtemps. Elle laissa tomber sa fourchette. « De l'eau, pour l'amour du ciel, de l'eau » s'écria-t-elle. M. Sedley éclatait de rire. C'était un homme épais, un habitué de la bourse, où l'on aime bien ses plaisanteries à bout portant. « C'est ce qu'il y a de plus indien, je vous assure, » ajouta-t-il. « Sambo, donnez de l'eau à Miss Sharp. » L'hilarité paternelle trouva de l'écho auprès de Joseph, auquel le tour parut excellent. Les dames rirent peu. Elles pensaient aux cruelles souffrances de la pauvre Rebecca. Pour Rebecca, elle aurait étranglé de bon cœur le vieux Sedley. Mais elle avala la mortification, aussi bien qu'elle avait fait auparavant de l'abominable curry, et aussitôt qu'elle put parler, elle dit d'un air de bonne humeur « J'aurais dû me rappeler le poivre que les princesses de Perse mettent dans leur tarte à la crème, suivant les mille et une nuits. Assaisonnez-vous donc dans l'Inde vos tartes à la crème avec du poivre de Cayenne, monsieur ?» Le vieux Sedley se remit à rire et pensa que décidément Rebecca avait un bon caractère. Joseph repartit simplement « Des tartes à la crème, mademoiselle ? Notre crème ne vaut rien au Bengale. Nous n'avons le plus souvent que du lait de chèvre, et j'ai fini par m'y habituer. »« Maintenant, vous n'aimez plus du tout ce qui vient de l'Inde, » dit le vieux père. Mais quand les dames se furent retirées, le rusé compère dit à son fils « Prenez garde, Joe, cette fille veut vous faire tomber dans ses filets. »« Peu, je ne la crains pas, » dit Joseph, très flatté de cette remarque. « Je me rappelle qu'il y avait à Dum Dum une fille, c'était celle de Cutler qui était dans l'artillerie. Elle épousa peu après Lance, le chirurgien, qui nous en fit voir des siennes, l'an 4, à moi et à Maligatone, dont je vous ai parlé avant le dîner. C'était un bon diable que ce Maligatone. Il est maintenant magistrat à Badge-Badge, et je suis sûr qu'il sera du conseil avant 5 ans. Eh bien, monsieur, l'artillerie donna un bal, et Quintin du 14e régiment du roi me dit « Sedley, je parie avec vous double contre simple, qu'avant les pluies, Sophie Cutler vous aura englué. Convenu, dis-je. Par ma foi, voilà un Bordeaux qui a des meilleurs. Est-il d'Adamson ou de Carbonel ?» Un léger ronflement fut la seule réponse. L'honnête agent de change s'était endormi, et l'histoire de Joseph fut perdue pour ce jour-là. Heureusement qu'il était très communicatif dans les réunions d'hommes, et qu'il a répété ce conte délicieux à plus de 100 reprises à son apothicaire, le docteur Gollop, quand celui-ci venait s'informer de son foie et de ses pilules. À cause de sa mauvaise santé, Joseph Sedley se contenta d'une bouteille de Bordeaux après son madère, puis dépêcha 2 assiettées de fraises et de crème et 24 gâteaux qu'on avait laissés dans une assiette auprès de lui. Nous pouvons assurer de plus, car les nouvellistes ont le privilège de tout savoir, qu'il pensa beaucoup aux jeunes filles qui étaient à l'étage au-dessus. « C'est, ma foi, une vive, aimable et gentille créature, » pensa-t-il en lui-même. « Comme elle me regardait quand je lui ai ramassé son mouchoir à dîner. Elle l'a laissé tomber 2 fois. Qui est-ce qui chante maintenant au salon ? Je vais aller voir. » Mais sa timidité vint encore l'arrêter avec une force insurmontable. Son père était endormi. Son chapeau se trouvait dans la pièce. Il y avait là un fiacre tout prêt à partir pour Southampton Row. « Je vais aller voir les 40 voleurs, » dit-il, « et les nouveaux pas de Miss de Camp. » Et sur cela, il s'esquiva tout doucement sur la pointe des pieds, sans réveiller son digne père. « Voilà Joseph qui sort, » dit Amelia à la fenêtre du salon, pendant que Rebecca chantait au piano. « Miss Sharp lui a fait peur, » dit Mrs. Sedley. « Pauvre Joe, sera-t-il donc toujours aussi timide ?»